C'est ces positions qu'on va soumettre à la question, si j'ose dire. Abdennour Bidar était déjà venu nous voir pour un livre très intéressant qui s'appelait « Self-Islam ». Il précise ses positions dans un nouveau livre qui s'appelle « L'islam sans soumission pour un existentialisme musulman » qui va sortir demain. Et nous l'opposons à Anne-Marie Delcambre qui est islamologue et Henri Laurence qui est bien connu comme un des meilleurs spécialistes français du monde arabe.
Comment s'étonner de l'extrême visibilité de l'islam en France, religion d'importation dans un pays connu pour être le moins religieux d'Europe et pratiqué par des hommes et des femmes appartenant pour leur grande majorité aux couches populaires, immigrés et fils d'immigrés, à ce titre doublement relégués, l'islam est de surcroît parcouru de mouvements d'effervescence et même de tentations fanatiques qui lui confèrent un statut d'exception au sein des vieilles religions sécularisées. C'est pourquoi sans doute on n'en a pas fini de l'interroger. Et d'interroger en premier lieu son rapport au texte, car c'est bien ce qui nous intrigue, cette puissance du fondamentalisme en son sein. Rappelons-nous que le Coran est la parole de Dieu et donc, comme l'écrit Tariq Oubrou, le recteur de la mosquée de Bordeaux, que les musulmans approchent le Coran comme un chrétien pourrait approcher le Christ vivant. Le Christ vivant, vous imaginez. Or, quel est le message du Coran? Selon Rémi Brague, l'attitude religieuse fondamentale est le rapport à la loi, c'est-à-dire à l'obéissance. Tout acte vertueux est un acte d'obéissance. Ajoutons que ce Dieu qui demande la soumission est un dieu abstrait, transcendant, tellement loin qu'il semble décourager d'avance toute conception d'un rapprochement avec l'homme. Ainsi, le musulman fervent vivrait-il une forme d'esclavage théologique, selon la formule d'Abdennour Bidar dans son essai qui paraît demain. Abdennour Bidar propose justement de substituer à ses lectures un islam sans soumission, c'est le titre de son essai, compatible avec l'humanisme occidental. Mais cet islam-là peut-il exister au-delà de l'exercice d'exégèse, hors de la conscience d'un intellectuel comme lui, pétri de philosophie occidentale?
Alors Abdennour Bidar, vous êtes philosophe, vous êtes professeur en classe préparatoire à Sophia Antipolis, vous êtes professeur au Centre international de Valbonne et à l'Université de Nice, et donc vous aviez publié ce livre qui avait été beaucoup commenté, notamment chez nous à France Culture et par plusieurs émissions, qui s'appelait « Self-Islam », qui était paru au Seuil. Là, vous revenez sur le sujet avec un tout nouveau livre chez Albin Michel qui s'appelle « L'islam sans soumission pour un existentialisme musulman ». À vos côtés, Anne-Marie Delcambre, vous êtes juriste et islamologue, professeur d'arabe littéraire au lycée Louis le Grand. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Soufi ou Mufti, quel avenir pour l'islam » qui était paru en 2007. Et puis « L'islam des interdits » qui vient d'être édité chez Desclés de Brouwer. Henri Laurence, vous êtes historien, vous êtes professeur au Collège de France. Vous êtes le titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages. À noter la réédition en poche cette année de « L'Orient arabe à l'heure américaine » chez Hachette. Et puis il y a, comme on dit dans les médias, une forte actualité, Henri Laurence, ces jours-ci, ces semaines-ci, puisque vous allez publier en même temps, dans les semaines qui viennent, un livre très important sur l'impérialisme au Seuil qui s'appellera « L'Empire et ses ennemis ». Vous êtes co-auteur d'un livre chez Odile Jacob qui s'appellera « L'histoire et le monde musulman des origines à nos jours » et qui retracera donc toute l'histoire de cette confrontation entre le monde musulman et nous. Et puis, au CNRS, vous publiez un livre d'entretien. Je signale d'ailleurs que dans le numéro du débat, pas celui qui est en vente en ce moment, mais celui juste avant, il y avait une interview de vous extrêmement intéressante à voir. Et puis, vous allez publier également les actes d'un colloque, je crois que c'est les actes d'un colloque, sur le terrorisme avec Mireille Delmas-Marty.
Alors Abdennour Bidar, pour nous aider à combler nos énormes lacunes sur l'islam, j'ai envie de commencer par une phrase que j'ai tirée de votre livre. Vous dites que ce n'est pas un hasard si on observe que l'islam demeure le plus souvent une religion de signes extérieurs, une religion formelle, dites-vous, où le souci de la loi, des usages, l'observance scrupuleuse des rites font l'objet d'une préoccupation constante, souvent obsessionnelle et presque exclusive. Alors, si ce n'est pas un hasard, comment est-ce qu'on explique déjà ce rapport justement au caractère formel de la religion dans l'islam?
Entendons-nous d'abord sur le sens de ce caractère formel. Ce que je vise, c'est effectivement l'importance qui est donnée la plupart du temps aux signes extérieurs d'islam. On voit sur ce point de quelle façon aujourd'hui la question de l'islam se focalise sur ces signes extérieurs. On pense tous évidemment au voile, on pense à cette barbe et à cette djellaba qu'on croise occasionnellement dans les rues. Donc on a
l'observance du ramadan aussi.
L'observance du ramadan. Ramadan, qui devient un véritable phénomène social. Aujourd'hui, certains disent le Ramadan est entré dans les mœurs. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire ça. Et j'ai voulu simplement approfondir un petit peu le débat, restituer l'islam dans sa dimension de quête spirituelle. Et pour ça, nécessairement, me confronter à nouveau au Coran. Il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a beaucoup frappé. Vous avez cité cette parole de Rémi Brague qui dit que pour les musulmans, le Coran, c'est comme si les chrétiens rencontraient le Christ vivant.
Non, ça c'est Tariq Oubrou, le recteur de la mosquée de Bordeaux.
Je trouve ça particulièrement intéressant parce que si le Coran pour nous est l'équivalent du Christ vivant, alors considérons que le Coran est vivant et dialoguons avec lui.
Alors oui, mais sauf que dialoguer avec le Christ vivant, même ça, ce serait difficile, même pour des chrétiens aujourd'hui. Adenor Bidar.
Oui, tout à fait. Mais s'il était vivant, la première chose qu'on ferait, c'est d'entrer justement en dialogue avec lui, c'est-à-dire que ce à quoi j'invite les musulmans, ce à quoi je les invite, et qu'en réalité ils font déjà à peu près de même pour un certain nombre d'entre eux, c'est à sortir d'une attitude passive, une attitude qu'on appelle le taqlid, c'est-à-dire l'obéissance passive à l'islam, dans sa dimension dogmatique, dans sa dimension rituelle, dans sa dimension pratique, dans sa dimension coutumière, pour prendre en charge un rapport à la religion qui est beaucoup plus fondé sur l'usage de la liberté de conscience, de l'autonomie, etc. De ce point de vue-là, on peut dire que c'est ce que font déjà un certain nombre de musulmans, mais sans avoir encore tout à fait ni la conscience de ce qu'ils font, ni suffisamment de confiance dans ce qu'ils font quand ils sont en train, dans leurs actes, dans les faits, de changer leur rapport au texte et à la tradition.
Vous vouliez prendre la parole, Anne-Marie Delcambre.
Oui, c'est-à-dire, j'ai lu attentivement, le crayon à la main, l'ouvrage de Adenour Bidar. J'ai mis plusieurs hypothèses. Bien sûr, c'est pas l'islam sunnite juridique pratiqué par 90% des musulmans depuis des siècles, où l'islam est considéré comme une foi, mais surtout comme une loi. Les ordres de Dieu doivent être exécutés. Monsieur Bidar ne se place pas du tout sur ce terrain-là, et d'ailleurs, même dans son livre « Un islam pour notre temps », page 65, il me rend hommage, merci, hein. Il dit des versets bien recensés concernant... Il trouve qu'il y a des versets incompatibles avec notre idéal d'égalité, c'est-à-dire les versets sur les femmes, sur les juifs, sur les non-musulmans. Il ne le conteste pas, mais il ne se place pas sur ce domaine de cet islam légaliste, etc., pratiqué. Il se demande, d'ailleurs, il est en quelque sorte tenté, il se dit, mais est-ce que ça serait quand même pas une loi? Parce qu'il y a quand même bien des ordres de Dieu. Il est écrit dans le Coran, « Kutiba alaykumul qital », le combat vous a été prescrit, de même qu'il est écrit, « Kutiba alaykumul siyam », le jeûne vous a été prescrit. Donc, moi qui suis spécialiste depuis 40 ans du droit musulman, j'ai sursauté. Mais j'ai voulu aller plus loin. Je me suis dit, mais est-ce que ça ne serait pas l'islam de M. Bidar, un islam des Lumières?
Ouais, d'ailleurs, c'est le titre,
pas du tout.
C'est le titre de la collection.
Eh bien, figurez-vous,
hein,
que page 213, figurez-vous que page 213, et je lui rends hommage pour ça, dans le self-islam, il dit, et que dire de tous ceux qui se réclament d'un islam des Lumières, si c'est pour l'éclairer avec des ampoules cassées? Quel intérêt. Et il a, de ce point de vue-là, il ne cherche pas, il est très honnête, il ne cherche pas du tout à présenter la religion de la loi qu'il estime autoritaire, inégalitaire et liberticide. Il ne cherche pas à la présenter comme une religion d'amour et de tolérance, pas du tout. Il ne se place pas du tout sur ce terrain-là. Je me suis posé la question, je juste pour simplement qu'il réponde, est-ce un islam christianisé? Parce qu'il cite beaucoup Saint Jean, 15-15, vous n'êtes plus des serviteurs, etc., vous êtes des amis. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à, c'est la devise d'ailleurs d'un évêque, vous avez dû le connaître, à monsieur qui connaît
Laurence.
Très très bien le Liban, Henri Laurence, c'est la devise « Vos autem dixi amicos », je ne vous dis plus amis, devise de Mgr Grégoire Ephraim Jarjour, donc c'est... C'est
alors,
pas un islam.
Anne-Marie Delcambre, justement, une des questions que je voulais vraiment poser à Adenour Bidar.
Est-ce que je peux juste...
Non, parce que...
Ah non. Il faut déjà qu'il réponde.
Il faut déjà qu'il réponde.
La charge est lourde.
C'est précisément le point qui me paraît un des points qui sont les plus intéressants dans ce livre. C'est que vous faites le constat, après beaucoup d'autres penseurs occidentaux, que le message des Lumières est épuisé. Et c'est ça qui choque effectivement Anne-Marie Delcambre qui l'a remarqué. Vous faites ce constat après d'autres que la liberté de l'homme postmoderne tourne à vide, qu'il est dépourvu de vie intérieure, par exemple. exemple, hein, qui s'oublie dans le bruit et la vitesse, qu'il est aliéné à la consommation, qui cherche plus à s'améliorer, à devenir ce qu'il pourrait être, mais simplement à être reconnu pour ce qu'il est. On reconnaît le discours d'un certain conservatisme humaniste occidental européen. On pourrait citer beaucoup de gens qui tiennent ce discours-là. Et vous, votre idée, c'est qu'une version de l'islam modernisée, rénovée et humaniste pourrait féconder notre décadence postmoderniste occidentale pour lui rendre peut-être le lustre qu'elle a eu à l'époque des Lumières ou du christianisme. Mais la question que je vais vous poser à ce propos-là, c'est je vous suis très bien, je vois très bien où vous voulez en venir, et c'est une idée qui est séduisante à vrai dire. Mais la question que cela pose, c'est est-ce que l'islam a une vocation universelle? Est-ce qu'il est réellement compatible avec notre postmodernité, toute décadente qu'elle soit.
Pour dire les choses de la façon la plus brutale, je dirais que hélas avec l'islam, il n'a jamais fait la preuve dans son histoire qu'il avait une vocation universelle. Et je crois que ce qui peut tout à fait étonner dans ce que j'écris, c'est que j'écris sur l'islam à partir d'une position qui est extrêmement singulière et dans laquelle vous avez peu de chances en réalité de reconnaître l'islam historique, pour répondre à ce que disait Madame Delcambre. Dans la mesure où ma situation de penseur musulman est une position, encore une fois, dans une certaine mesure inédite. Je suis un enfant de la culture européenne, je suis un enfant de la philosophie occidentale, je suis un enfant de cet humanisme qui est le nôtre ici, mais qui est largement désenchanté, largement désabusé, et j'ai l'impression d'écrire au confluent de deux crises. D'un côté, la crise de l'humanisme islamique, hein, Mohamed Harkoun a fait énormément de travaux pour nous convaincre qu'il y avait eu au XIe siècle de l'ère chrétienne un humanisme islamique, qui a été hélas une espèce de météorite dans l'univers de la pensée islamique, et de l'autre côté, je trouve, en tant qu'héritier des Lumières, justement, ce que vous avez appelé ces ampoules cassées, vous me citez, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui très désenchantés par rapport à cet humanisme occidental. Et j'essaie, si vous voulez, d'assumer cette position de quelqu'un qui a reçu deux héritages, mais deux héritages en très mauvais état. Je trouve que mon héritage islamique est en très mauvais état, et qui aime bien châtie bien, je suis très dur avec l'islam, et je trouve que mon héritage occidental va très mal, et là encore, qui aime bien châtie bien, et la ressource que j'ai dans cette situation-là, c'est d'essayer de prendre ce qui, dans les deux traditions, pourrait encore être peut-être repensé, réanimé, réactivé, etc., en faisant quelque chose qu'on a très peu tenté d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire de faire se féconder justement un certain nombre d'idées. Je crois que l'islam jusque-là a eu ce péché d'orgueil de considérer qu'il pouvait être autosuffisant dans la construction qu'il avait de soi, sur le plan théologique, sur le plan politique, etc. Je crois qu'on trouve, hélas, il faut le dire, ce même péché d'orgueil ou ce même ethnocentrisme du côté de la culture occidentale qui, alors on lui en a suffisamment fait le procès, a eu une vocation, je mets le mot entre guillemets, impérialiste. Quoi qu'il en soit de ce procès, je crois qu'aujourd'hui, ce sont deux cultures qui sont confrontées et que tout pousse à la confrontation, je dirais, d'une façon qui est violente ou polémogène, cataclysmique, etc. Et moi, je voudrais dire qu'il y a un autre mode de la confrontation possible, qui est la mise en commun d'un certain nombre de ressources spirituelles, intellectuelles. Et c'est ce que j'essaie de faire. Mais la tentative, d'abord, est relativement isolée et ensuite inédite. Et évidemment, je ne peux pas l'assumer tout seul.
Alors justement, je vais reprendre la critique que vous a fait Anne-Marie Delcambre. Mais je n'ai pas une critique ou pas critique. On vous redonnera la parole, mais il faut bien qu'on essaye de suivre des thèmes, Anne-Marie Delcambre, si vous le voulez bien. Sinon, on ne va pas pouvoir... Alors, pour discuter toujours sur cette rencontre que vous essayez, Abdennour Bidar, de faire tout à l'heure, Anne-Marie Delcambre disait, j'ai l'impression qu'il s'agit un peu d'un islam christianisé. Alors, je me demandais comment Henri Laurent... Eh bien, moi, je trouve que c'est une expression... Alors, peut-être... On va y revenir, Anne-Marie.
Est-ce que vous m'autorisez simplement de dire pour qu'on puisse discuter
le point de vue, le jugement d'Henri Laurent sur la question, ouais, parce que effectivement, Dieu dans l'islam, si j'ai bien compris, est un Dieu en retrait. Parce que il faut nous rappeler quelques fondamentaux aussi, Henri Laurent, parce que nous ne sommes pas des islamologues autour de cette table, et je pense qu'une grande partie des auditeurs a besoin aussi de vos lumières, et cette fois-ci pas cassées, j'espère, de vos ampoules toutes lumineuses sur l'islam aujourd'hui. Est-ce que effectivement, l'homme, le musulman est écrasé par une transcendance, par une sorte de dictature de la transcendance qui le rend justement un éternel serviteur, indisponible à une rencontre avec la philosophie occidentale de l'émancipation de l'individu.
Vous savez, moi je ne sais pas ce qu'est l'islam, donc je me sens toujours un peu décalé dans ce genre de débat. Je suis historien, je connais des formations historiques et culturelles de différentes époques. Je sais que toute société peut toujours lire, relire, réinterroger ses textes religieux fondamentaux et en tirer en permanence de nouveaux sens. Bossuet faisait une politique tirée de l'écriture sainte qui créait la monarchie absolue. Et avec les mêmes textes, on fait la théologie de la libération. Jadis, en 1791, le pape de Rome a condamné les droits de l'homme de la Révolution française au nom des droits de Dieu. Aujourd'hui, au moins Jean-Paul II, peut-être moins le pape actuel, se pose comme défenseur des mêmes droits de l'homme. Autrement dit, je ne connais pas naissance de l'islam. Donc la question que je peux m'interroger sur ce livre, que je trouve par ailleurs absolument excellent, c'est plutôt les conditions éventuelles de possibilité de l'islam que de décrit notre ami, plutôt de dire s'il est ou s'il n'est pas l'islam.
Marie Delcamp, vous avez promis la parole.
Voilà, j'ai trop fait attendre. Ce que découvre M. Bidart, c'est pas un islam qu'il invente, un self-islam comme il a tâtonné, c'est-à-dire ce qu'il présente, c'est un islam d'abord chiite et pas du tout sunnite. Et j'allais dire qu'il y a une phrase qui a attiré mon attention. C'est un islam chiisme de la périphérie, extrémiste, c'est-à-dire l'islam sans soumission, écrit-il, présente un islam qui apprendrait aux hommes à se passer de Dieu, à se comporter en héritier de Dieu, page 135, et à se conduire en immortel, page 169. Et quand j'ai lu ça, j'ai vraiment eu une révélation, je me suis dit, mais c'est Christian Jambet, la grande résurrection d'Alamout, ou l'insurrection, conduit à la résurrection, où c'est l'abolition de l'islam légalitaire, c'est-à-dire les formes de liberté dans le chiisme ismaélien. C'est alors, la grande résurrection
de Mahmoud. Si vous me le permettez,
pas trop d'érudition, parce que
juste pour. Là, on a fait un grand pas, qui est un saut de géant jusqu'à la page 135. Donc je pense que les gens qui nous écoutent doivent être un petit peu perdus. Je voudrais réagir par rapport à ce qui a été dit avant par Monsieur Laurence. Ce qui me frappe dans ce qu'on a dit, c'est que effectivement, on a peine à situer, et d'ailleurs c'est une tentative vaine, une essence de l'islam. En réalité, l'islam c'est un objet culturel extrêmement vaste. Il y a une dimension politique, il y a une dimension historique, une dimension religieuse, mystique, théologique, etc., etc. Donc je crois qu'à chaque fois, la première des prudences, c'est de savoir et de déterminer exactement sur quel plan on parle et à partir de quel registre ou sur quel registre on l'appréhende. Moi, je suis philosophe, simplement. Je suis philosophe et je me suis demandé si un texte comme le Coran pouvait être saisi par la raison critique. Très modestement, je me suis mis dans les pas, alors très modestement, mais quand même, comment ne pas faire la référence, je me suis mis dans les pas d'Averroès. Averroès, c'est quelqu'un qui essaie de se demander ce qu'on peut faire avec le texte du point de vue de la raison. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a énormément frappé dans ce qu'on a dit déjà, c'est que on a essayé d'identifier l'islam dont je parlais. Et les qualificatifs ont été déjà multiples. On a parlé d'islam des Lumières, d'islam christianisé et d'islam chiite. Et ça, c'est tout à fait révélateur. Et je dirais que la bonne réponse, c'est, eh bien, excusez-moi, mais ni l'un ni l'autre, ou ni les uns ni les autres, un peu des uns, un peu des autres. C'est ça qui fait.
Alors vous êtes bien dans une tradition de pensée. Tout philosophe appartient à une tradition de France.
Justement, avec un ensemble de références que j'essaye de coordonner. Si on me disait tu es un musulman chiite, je trouverais ça réducteur. Si on me disait tu es un musulman des Lumières, je trouverais ça réducteur. Et d'ailleurs, vous avez eu raison de souligner à quel point je prends mes distances par rapport à cette appellation que certaines fois j'ai tendance à trouver un petit peu ronflante et un petit peu dépassée. Bon, mais encore une fois, songez à la position qui est la mienne. Une position qui est vraiment tout à fait singulière et inédite, je le répète. Est-ce qu'on a déjà essayé de penser l'islam à partir de la situation occidentale moderne? Pour le dire de façon... certains l'ont fait, bien entendu, je dis pas que je suis le premier. Néanmoins, l'effort est quand même relativement singulier. Je vous donne un exemple. Notre civilisation occidentale dit à partir du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, par la bouche de Nietzsche, Dieu est mort. Bon, ben moi je suis un enfant de la mort de Dieu. J'ai grandi en Occident, je suis un enfant du nihilisme, je suis un enfant de Camus, des philosophies de l'absurde, etc. Comment est-ce que je me débrouille pour être à la fois un enfant de la mort de Dieu et un musulman? Là, il y a quelque chose à penser qui est vraiment de l'ordre de l'oxymore, de l'ordre de la contradiction, de l'ordre de sinon de l'impensable, tout au moins de l'impensé. Et c'est ce que je dois prendre en charge. Alors effectivement, et le mot a été prononcé et je le revendique en toute modestie, je suis tâtonnant. Mais comment ne pas tâtonner dans un champ aussi nouveau?
Mais Avicenne a fait exactement votre démarche. Il se trouvait, comment dirais-je, Ibn Sina, qui était un ismaélien, et chiite ismaélien, qui ne l'avouait pas trop à cause du pouvoir sunnite qui le persécutait. C'est-à-dire que intuitivement, sans faire de l'islamologie et sans faire de l'érudition, vous avez expérimenté le soufisme. Vous avez des mots très durs sur ces soufis qui vous ont en quelque sorte conduit aux enfers, une descente aux enfers lamentable, aussi bornée et aussi intransigeant que presque les ritualistes, que les gens comme du tablier. Donc vous connaissez bien l'islam de l'intérieur, et moi ce que je trouve très intéressant dans votre dernier livre, bon les autres sont bien, mais c'est que vous donnez aux intellectuels, parce que n'oubliez pas que les ismaéliens ont c'est proche des druzes, les druzes c'est les karmates, c'est-à-dire que ça a inspiré la libre pensée. À un moment donné, je me suis même posé la question, est-ce un islam athée? Parce que vous parlez un islam qui deviendrait un islam un peu à la Marcel Gauchet, un islam, une religion de la sortie de la religion. Mais ça, c'est un peu ce que voulait Avicenne, c'est-à-dire un islam, et aussi les druzes, c'est-à-dire un islam très inspiré par la philosophie grecque, et dont les libres penseurs actuellement s'inspirent. Donc dans le dernier livre, intuitivement, vous allez vers un islam de la périphérie qui séduisait les intellectuels. C'est peu en nombre, mais en intelligence, c'est une porte de sortie parce que vous pensez que là, l'Europe peut vous aider. Et non pas ceux qui sont à moitié des hémiplégiques, qui veulent prendre l'islam juridique et peindre en rose ce qui est noir. Vous dites que c'est très inégalitaire pour les femmes, pour les juifs, pour les non-musulmans. Ils disent, ah mais non. Le djihad, vous êtes également très sévère. Vous dites que le djihad, c'est pas un combat, mais c'est un combat spirituel. Rions, moi je me roule par terre de rire quand j'entends ces mensonges de gens qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes.
Oui, il y a une critique très très virulente du texte dans votre livre, Abdennour Bidar. Enfin, même parfois on est sidéré, une dictature de la transcendance, une théologie de la servitude. Enfin, bon, ce que vous dites sur la façon dont l'islam, justement, a été, alors, pour reprendre les prudences d'Henri Laurence, dont il a été interprété et dont on l'a utilisé. Parce que, vous êtes un philosophe, vous n'intéressez pas trop aux politiques, mais enfin, il faudrait encore interroger aussi cette dimension du monde musulman. Mais peut-être sur la sortie de la religion, parce que ça, je pense que Henri Laurence aura sans doute envie d'intervenir là-dessus. Vous dites que l'islam peut être une religion aussi de la sortie de la religion, comme le catholicisme, hein, c'était la thèse de Marcel Gauchet. Mais avec un avantage, dites-vous, et c'est là où on peut discuter, c'est que ce serait une sortie non pas tragique, avec une mort de Dieu, mais pleine de félicité, puisque nous serions devenus des éclats, nous aurions en nous un éclat de cette lumière qui est Dieu, c'est-à-dire Dieu, en disparaissant, nous aurait donné un peu de lui. Abdennour Bidar.
Le sujet est extrêmement complexe, hein, en réalité, mais je dirais que les religions, quelles qu'elles soient, nous ont raconté depuis plusieurs millénaires à peu près toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'elles nous ont parlé de quelque chose qui en l'homme passe l'homme. Elles lui ont donné le nom de transcendance, et la grande question a été de savoir où était située cette transcendance. Est-ce que cette transcendance est quelque chose qui est non humain, et à partir de là qu'on va appeler le divin, le numineux, etc., etc. Ou est-ce que cette transcendance, c'est simplement quelque chose qui est de l'ordre des possibilités supérieures de l'être humain, des possibilités qui pourraient être amenées à s'épanouir, non pas métaphysiquement, mais historiquement. L'hypothèse que j'émets dans le livre, c'est simplement que notre humanité en tant qu'espèce a encore rendez-vous avec un certain nombre de possibilités ou de potentialités supérieures d'elle-même, et je crois que c'est en ce sens que les religions ont encore quelque chose à nous dire. Le philosophe allemand Jürgen Habermas a répété, et depuis l'expression a fait florès, qu'aujourd'hui les religions sont intéressantes en tant que ressources de sens. Bon, c'est une chose de le dire. Et d'identité. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Où est le sens? Bien, je pense
un horizon, qui nous permet d'expliquer la trajectoire qui est la nôtre. J'aime bien l'expression que vous expliquez. Vous utilisez des expressions comme projet de vie, par exemple, qui est un type d'expression qui disparaît complètement de notre vocabulaire philosophique.
En effet.
Et je le déplore. Mais je voulais, en rebondissant sur ce que vous venez de dire, poser une question à Henri Laurence, parce que une des thèses sur laquelle s'appuie votre livre Abdennour Bidar, c'est que le rapport à l'islam se détend et se déconstruit, c'est l'expression que vous employez, au fur et à mesure que se creuse l'éloignement entre le pays d'accueil et le pays de départ, et la terre de départ. et que donc un islam nouveau se reconstruit en réalité en arrivant en Europe, en Occident. Mais comment nier les témoignages qui nous arrivent de la part de sociologues comme, je pense en particulier à Nezla Kelek, la sociologue allemande d'origine turque, qui dans des livres comme Plaidoyer pour l'homme musulman montre que, contrairement à ce qui pouvait être espéré, la reconstruction d'une identité musulmane en Allemagne même par des Turcs qu'il avait en grande partie abandonné, cette reconstruction peut prendre des formes extrêmement défensives, extrêmement agressives, de repli d'une identité, d'une communauté sur elle-même, et ça engendre la multiplication qui inquiète extrêmement l'opinion publique allemande en ce moment, des crimes d'honneur commis par des hommes musulmans sur leurs filles ou sur leurs sœurs, parce qu'elles refusent l'époux de leur choix. Donc cette déconstruction, reconstruction d'identité musulmane, elle n'est pas aussi simple et elle ne va pas forcément dans le sens de l'adoption des mœurs et des canons de la modernité que pourrait le faire croire le livre, enfin que le souhaite manifestement Abdennour Bidar. Henri Laurence.
Bah, vous posez beaucoup de questions. disons d'abord que syndicalement, je me méfie toujours des fins de l'histoire, hein, parce que professionnellement, c'est gênant pour moi. Et donc, il y a un peu dans ce livre aussi une fin de l'histoire. Je ne suis pas au courant, et pour la mort de Dieu aussi, je ne suis pas vraiment au courant non plus.
Je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France.
Cela, pour répondre plus directement à la seconde partie de la question, ensuite je reviendrai sur le livre. Qu'est-ce qui est de religieux, qu'est-ce qui est du social, on ne le sait jamais. Vous avez des phénomènes socio-intellectuels absolument pervers actuellement qui sont dans les logiques compensatoires du ressentiment, de la haine, qui peut aussi bien se traduire sur ces repliements sur des structures patriarcales anciennes qui sont en fait des recombinaisons et non pas des héritages. Vous avez, là, mon ami Fidu a sorti un livre magnifique sur les courants apocalyptiques dans l'islam contemporain, où il montre qu'en fait, ils importent massivement de l'apocalyptique protestante nord-américaine à l'intérieur de l'islam d'aujourd'hui, dans une description de tous les maux qu'on pourrait faire à nos adversaires, et toutes les souffrances, toutes les tortures qu'on pourrait les infliger. Mais bon, on est dans le ressentiment, on est dans la compensation par rapport au malheur du temps, et dans la perte du narcissisme, dans le sentiment d'infériorité. Bon, est-ce que c'est la religion, est-ce que c'est le social, ça c'est toujours très difficile à déterminer avec nos catégories de sciences humaines et sociales, parce que nous n'admettons jamais que nos concepts sont toujours trop réducteurs par rapport aux pluralités des expressions sociales et humaine. Alors, bon, c'est peut-être parce que c'est un intérêt que j'ai particulièrement aujourd'hui, c'est ce que vous dites dans le livre au début, et qui sous-tend d'ailleurs toute une démonstration, c'est de réhistoriciser la composition du texte coranique dans toutes ses fragilités. C'est-à-dire d'abord dans sa fragilité de sa composition historique, et il y a des travaux très considérables actuellement de philologues qui montrent la durée dans laquelle le texte coranique s'est construit.
L'exégèse est interdite en islam.
Ah non, c'est des choses qui existent dans l'islam classique.
Dans l'ijtihad, quand elle est refermée.
Non, on est avant.
D'accord.
D'une part, avant, on est sur le fait même que la parole de Dieu qu'on rencontre, elle pose problème. Et notre ami le dit lui-même en faisant ses références aux diacritiques, les mots peuvent changer de sens, la philologie peut nous donner de nouvelles leçons d'interprétation du texte coranique. Là, il y a un énorme travail qui est fait par des musulmans et des non-musulmans sur ce point-là. Et il existe des courants qu'on peut dire un peu souterrains dans l'islam contemporain, y compris au Moyen-Orient, qui... aborde ces questions. Et je crois que votre démarche n'est réellement possible que si on historicise au départ le texte coranique lui-même dans ses fragilités.
Puisqu'il est la parole de Dieu incréée, comment pourrait-on périodiciser, historiciser un tel texte? Quelque part, il y a une contradiction interne.
Non, vous avez des traités médiévaux qu'on est en train de rééditer. Amir Moïse est en train de rééditer, par exemple, un traité médiéval.
Non, je parle du Coran lui-même.
Oui, non, mais sur les falsifications du Coran. Vous avez une tradition médiévale d'histoire des falsifications du Coran, c'est-à-dire des lectures plurielles du Coran, Et notre ami est quelque part aujourd'hui, justement, dans cette rencontre avec une tradition musulmane qui réinterroge la composition même du Coran, et qui n'est pas ce bloc inédit. Les philologues vous diront que le Coran sur lequel travaillent les gens est une version fautive imprimée par El-Azhar à la fin du 19e siècle, est répété ad nauseam, et qu'on n'a même pas d'édition critique du Coran comme on a des éditions critiques de la Bible.
Alors, si vous le permettez, par rapport à cette très longue intervention, je voudrais répondre le plus rapidement possible sur trois points. Donc, le premier point, c'est la question de la réhistoricisation. Vous avez fait référence tout à l'heure à ce qu'on a appelé dans l'histoire, je pense que il peut être utile de l'expliquer, la fermeture des portes de l'Ijtihad. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'islam, c'est devenu un épisode d'ailleurs mythifié lui-même, dans l'histoire de l'islam, on a décrété que les interprétations canoniques du Coran avaient été fixées et qu'à partir de là, l'intelligence libre et personnel ne pouvait plus s'exercer sur un certain nombre de
points. Ça remonte où ? 11e, 12e ?
Oui, et je voudrais dire quelque chose.
C'est loin.
Oui, je voudrais dire à ce sujet quelque chose. C'est que justement, comme c'est un événement historique, ce sont des hommes qui l'ont fait, et ce que des hommes ont fait, des hommes peuvent le défaire. Et des hommes peuvent, et en plus, ont la responsabilité de le défaire. Et je crois que c'est justement une des responsabilités qui nous attend. C'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à ce que vous disiez, monsieur Laurence, c'est la résurgence, et ce que vous nous disiez aussi, madame Clarini, la résurgence de tout ce qu'on appelle, et qui nous inquiète d'ailleurs en tant que tel, les formes néo-communautaires de l'islam qu'on observe même ici en Occident. De ce point de vue-là, je refuse de donner une version idéaliste du progrès de l'islam. C'est-à-dire que c'est quelque chose vis-à-vis duquel je suis extrêmement vigilant, extrêmement critique. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une tentation dans la communauté musulmane d'une espèce de néo-tribalisme qui est en plus, effectivement, une recomposition de l'héritage, plus que quelque chose qui est dans la filiation directe de l'héritage. Donc, le progrès des sociétés musulmanes, s'il existe, est tout sauf linéaire. Comme tout progrès humain, il est chaotique, il est contrarié. Et aujourd'hui, on note que la communauté musulmane en France est une communauté en tension entre des pulsions contradictoires. Elle n'a pas encore choisi son destin, elle n'a pas encore choisi son avenir. Et la position du philosophe, justement, en ce sens-là, c'est de proposer du sens aux évolutions qui nous paraissent les plus fécondes. Moi, je n'ai pas du tout la prétention d'être un théologien qui va venir asséner quelque chose de façon dogmatique, qui va fonctionner à coup de fatwa, c'est-à-dire de décisions toutes faites qui pensent à la place de l'individu. Je dis, voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut penser, sur lesquelles on doit penser, et donc mettez-vous à penser, simplement. Et le troisième point sur lequel je voudrais répondre, par rapport à ce que vous disiez, monsieur Laurence, c'est la question de la fin de l'histoire et la question de la mort de Dieu. Je voudrais préciser que dans le livre, effectivement, il y a une perspective qu'on pourrait qualifier rapidement de finaliste. Et on sait à quel point, scientifiquement parlant, et philosophiquement parlant, d'ailleurs aussi, on a pris nos distances avec la notion de finalisme. Celui qui lui a donné ses lettres de noblesse, c'est Hegel, au 19e siècle, en philosophie. Bon, il n'empêche que aujourd'hui, philosophiquement parlant, la question du finalisme, la question de la finalité de l'histoire humaine est une question qui n'est pas close. Quelqu'un comme Marcel Gauchet dit, par exemple, qu'on a désacralisé l'histoire, on a cessé de vouloir donner un sens à l'histoire, mais le fait même qu'il en parle, notamment dans un livre qui s'appelle « La religion dans la démocratie », montre que c'est une question qui continue de tarauder la conscience occidentale. Est-ce qu'il y a une fin de l'histoire ? Et la deuxième question qui continue de tarauder la conscience occidentale, c'est la question de la mort de Dieu. On sait pas s'il est mort, on sait pas de quoi il est mort. Aujourd'hui, on parle de retour du religieux, de revanche de Dieu. Alors, est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est le vrai? Etc. Et ce que j'ai voulu faire, par rapport à la question de la finalité et par rapport à la question de la mort de Dieu, c'est de dire à l'islam, eh bien, écoute, je personnifie la tradition, je dis à la tradition islamique, écoute, ce sont des questions contemporaines, intéressantes et importantes pour tout le monde, eh bien, il va falloir te confronter avec. Tu ne pourras pas entrer dans la modernité simplement en t'interrogeant de façon quelque peu superficielle et convenue sur la laïcité, sur les droits de l'homme, etc. Il faut que l'islam statue sur ces questions-là, mais qu'il aille beaucoup plus loin avec des enjeux de civilisation qui concernent aujourd'hui la culture globale.
Vous écoutez Du Grain à Moudre, France Culture, il est 19h03, Julie Clarini, Brice Couturier et leurs trois invités. Le débat ce soir, l'islam soumet-il l'individu ?
Oui, vous venez d'entendre Abdennour Bidar, Laurent, avec nous aussi également Anne-Marie Delcambre et Henri Laurence. Anne-Marie Delcambre, alors évidemment, moi je suis plus versée dans la sociologie que dans la théologie, et j'ai envie de reprendre la question qu'Henri Laurence posait d'emblée à l'orée de cette émission, c'est quelles sont les conditions objectives, quelles sont les conditions dans lesquelles le discours d'Abdennour Bidar pourrait faire naître un islam d'Europe, parce que là, intéressons-nous déjà à l'Europe, un islam d'Europe qui serait justement cet islam des Lumières, en tout cas un islam qui, selon ses voeux, renouvellerait l'humanisme européen.
Le problème pour l'islam, c'est que, ça monsieur Bidar n'en tient absolument pas compte, c'est que c'est quand même une religion de la loi à la base, et qu'il y a des ordres de Dieu à respecter, que les fameuses écoles juridiques sont perçues par nous comme étant, comme vous dites, l'œuvre humaine, mais si vous lisez, par exemple, Nawawi, les savants, et quand on parle des savants, ce sont les savants juristes, sont les successeurs des prophètes. C'est un peu, ils ont un peu le rôle des papes dans le catholicisme. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le prophète, sa vie, et aussi les juristes qui ont explicité
la loi
islamique. Et ça, c'est un islam de converti, mais qui est très très bien, qui est très très bien assimilé par l'islam juridique. Et le gros problème que je reproche aux tenants de l'islam des Lumières, c'est de ne pas dire que cet islam majoritaire n'est pas seulement majoritaire en nombre, parce que ça, on peut toujours, ça peut décroître ou croître, mais aussi parce que la norme en islam, ce qui est dans les religions comme le christianisme, « mais fais ce que tu veux », dit saint Augustin, ou le judaïsme, où c'est quand même pas la parole de Dieu directement révélée, en islam, la norme, c'est quand même majoritaire. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours un intégrisme diffus, même Medvedev, qui parfois est malhonnête, dans ses analyses.
Attention, c'est un collègue.
On ne peut pas dire... Enfin, attendez, je regrette. Il y a des passages du Coran, mais pour un musulman, le Coran de Médine est aussi valable que le Coran de la Mecque. Et je dirais même, à la limite, que l'abrogation, les versets les plus durs abrogent les versets les plus doux. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis le début jusqu'à maintenant. Ce que M. Bidart veut renverser, il veut renverser un système qui dure depuis des siècles et pratiqué par une majorité de musulmans. Alors, si des gens ne faisaient pas un effort, il est en Europe, il a des très très belles phrases et de très belles pages concernant la politique lâche et irresponsable et inconsciente des gouvernants qui vont vers l'UOIF en leur demandant, alors ce qui fait effectivement qu'on encourage, alors il y a bientôt le dire, attention ta barbe n'est pas assez longue, attention le ramadan, tu as avalé ta salive, oh là là, zut, tu as cassé le jeûne. On arrive à un côté ridicule. Vous lisez les fatwas, par exemple sur internet, est-ce que je dois rentrer dans les toilettes du pied gauche plutôt que du pied droit, etc. etc. On arrive au summum du ridicule.
Alors Abdennour Bidart, quelles sont les conditions d'écoute? Enfin, comment vous pouvez faire vous? Parce que bon, on connaît bien cette collection chez Albin Michel, l'Islam des Lumières, qui est une belle collection, qui fait vraiment des efforts. Mais aujourd'hui, quelle est la réception de ce genre d'ouvrage?
On ne change pas une civilisation en 10 ans, ni même en 50 ans.
Non, mais justement, parlons d'aujourd'hui. Voilà. Qui vous lit? Voilà, Abdennour Bidart.
Qui me lit? Beaucoup de musulmans, des jeunes générations, nés ici, qui ont fait des études ici, et qui sont en recherche d'une nouvelle intelligibilité de leur propre foi. Voilà. Alors... par rapport à ce que vous disiez, est-ce que c'est la majorité? Est-ce que j'ai une représentation sociologique fiable de ça? Non. Je sais simplement que en France à l'heure actuelle, il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui sont acquis aux valeurs occidentales, qui sont acquis aux valeurs occidentales, mais qui sont capables en même temps d'une critique, au même titre que les autres, des excès de la modernité, de son excès de matérialisme, notamment de son excès d'individualisme, de son manque de spiritualité, qui ressentent aussi l'occidentalité comme une crise du sens, et qui ont envie de se ressaisir d'un objet spirituel et de redonner une dimension spirituelle à leur existence. Et quand ils se retournent du côté de l'islam, ils trouvent un traditionnalisme qui évidemment ne leur convient plus du tout à leur situation de vie, convient plus du tout à leurs exigences intellectuelles, à leurs exigences spirituelles. Donc le public existe, mais le public existera d'autant plus qu'on donnera, et c'est ce que j'essaie de faire, à l'islam d'autres représentations de lui-même. Et ça, c'est vraiment en attente d'élaboration. C'est-à-dire que le problème, c'est que dans le camp d'en face, si je peux m'exprimer ainsi, les représentations sont toutes faites, elles sont toutes prêtes, et elles arrivent à coup de parabole.
C'est-à-dire
que cet islam dogmatique, traditionnaliste, qui fonctionne avec l'autorité des oulamas, eh bien, c'est quelque chose qui est immédiatement accessible. Je prends un seul exemple. Aujourd'hui, on a un prêcheur au Moyen-Orient qui s'appelle Karadawi, qui a vraiment pignon sur rue, qui est une espèce de star du télévangélisme à l'islamique. Bon, eh bien, ce monsieur s'est autoproclamé, il y a quelque temps, président ou autorité supérieure d'un conseil général européen de la fatwa, qui a édité un livre publié en français, préfacé par Tariq Ramadan. Bon. Donc là, il y a une tentative d'entrisme, de modèles qui sont des modèles néo-communautaires absolument inadmissibles. Mais le problème par rapport à ce que j'essaie de faire, c'est que ces modèles-là sont tout faits. Hein, c'est la voie de la passivité, c'est la voie de la dogmatique, etc. C'est ce que je viens de dire. Donc nous, finalement, notre problème, c'est qu'on part de zéro. Et que inévitablement, eh bien, on est dans cette situation, vous savez, qui est un peu... Alors, je vais peut-être arrêter ensuite avec les grands parallèles, parce que ça va finir par faire beaucoup. Mais on est un peu dans cette situation qui est la situation de Descartes, quand Descartes dit, au XVIIe siècle, eh ben, du passé faisant table rase, je vais tout recommencer depuis les fondements. On connaît la célèbre geste cartésienne du recommencement depuis les fondements. C'est-à-dire qu'on se met dans cette situation intellectuelle et culturelle aussi, et sociale, d'isolement, de difficultés extrêmes, qui consiste à essayer de tout recommencer sur d'autres bases, parce qu'on se rend compte que, à force d'élaguer l'arbre qu'on essaye d'assainir, quasiment tout est pourri. Bien, moi, c'est l'impression que j'ai. Maintenant, si, enfin, je pense que j'ai pas le temps, mais j'aurais voulu répondre sur deux points à Madame Delcambre qui soulève des questions importantes.
On va peut-être donner la parole à Henri Laurence.
Oui, parce que ce que vous dites m'évoquait honnêtement plus le protestantisme, la réforme du christianisme. Que Descartes. Est-ce qu'Henri Laurence, vous n'avez pas l'impression qu'en ce moment, ce qui se passe dans l'ébullition intellectuelle qui atteint aussi bien d'ailleurs l'autre côté de la Méditerranée, il y a quand même un certain nombre d'auteurs tunisiens en particulier qui posent les questions dans le terme aussi de l'accommodement possible entre l'islam et la modernité, puisque la modernité, elle ne nous est pas réservée à nous Européens, elle a tendance à déstabiliser les sociétés et les idéologies aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce qu'on n'a pas affaire à l'émergence d'une forme de réforme islamique de protestantisme musulman, et d'ailleurs ça va avec le discours, je dirais franchement une fois encore, franchement conservateur, qui est celui d'Abdennour Bidar, le sens, la tradition, les valeurs, les problèmes. Mais oui, je suis désolé.
Vous voulez dire conservateur ou anti-conservateur?
Conservateur. Vous citez Luc Ferry.
Vous parlez d'un conservatisme humaniste.
Conservatisme humaniste, tel qu'il se déploie sur notre rive de la Méditerranée. J'étais en train de vous parler, je me disais, est-ce que dans 25 ou 30 ans, le conservatisme politique n'aura pas plus à voir avec l'islam qu'il n'a eu à voir avec le catholicisme au 19e siècle ? Henri Laurence, une question un peu provocatrice.
Non, pas du tout. D'abord, le débat sur le protestantisme islamique, il est ancien. Ça fait depuis les années 1880 qu'il y a la tentation d'avoir un Luther de l'islam ou un Calvin de l'islam.
Vous l'avez peut-être à votre droite en ce moment.
Alors, en tout cas, je veux dire, déjà, Frani, il y a 140 ans, 130 ans, se présentait comme le Luther de l'islam. Explicitement, il l'a revendiqué. Et la réponse anglaise, c'était Lord Cromer, il y a juste un siècle, a dit cette phrase de condamnation. Reform Islam is not longer Islam. L'islam réformé n'est plus l'islam. Et c'est un peu une partie du débat. Mais ça veut dire aussi qu'on enferme l'islam dans certaines catégories.
Essentialiste.
L'autre point sur lequel j'insisterais, c'est qu'évidemment, j'ai dit, l'islam est fondamentalement pluriel. Il a une richesse de traditions, de matériaux, de culture à travers sa longue histoire. Et en un certain sens, beaucoup de ces réformateurs reviennent à certaines formes d'expression de l'islam tel qu'il a pu exister à partir de sa matrice à l'époque médiévale. On a parlé tout à l'heure des Ismaéliens, par exemple. Et c'est pas du tout péjoratif, loin de là, parce qu'au lieu de dire « vous quittez l'islam », on vous dit plutôt « vous retrouvez certaines formes ».
Le protestantisme était basé aussi sur l'idée d'un retour à...
Oui, mais c'est pas l'islam des origines comme les salafites,
c'est retrouver le moment où les djihad étaient ouvertes et où l'interprétation était libre.
C'était surtout une époque, si vous voulez, où il y avait une communication entre la pensée philosophique et la pensée religieuse.
Bien sûr. Et pour aller tout à fait dans votre sens, je dirais qu'il faut retrouver le caractère gestatif de la matrice. Hein, le moment matriciel, c'est le moment où tous les possibles sont ouverts, hein, où les choses sont en préparation.
Merci Abdennour Bidar. Je rappelle que vous êtes philosophe, prof en classe prépa à Sophia Antipolis, et votre ouvrage paraît chez Albin Michel, L'islam sans soumission pour un existentialisme musulman. Anne-Marie Delcambre, vous êtes juriste islamologue, soufi ou moufti, quel avenir pour l'islam? C'était en 2007, et puis le plus récent, l'islam des interdits, la réédition, l'islam des interdits chez Des Clés de Brouwer. Et enfin Henri Laurence, professeur au Collège de France. Une grande actualité donc dans le mois de janvier, donc rendez-vous est pris, notamment je pense pour votre ouvrage sur l'impérialisme dans l'histoire, l'Empire et ses ennemis, ça paraîtra au Seuil. Merci à vous trois.
Demain du Grand Mood sera sera consacré à la DSU, la dotation urbaine de solidarité, avec un très joli titre, Julie Clarini. Faut-il prendre aux pauvres pour donner aux plus pauvres? Nous serons avec Marie-Noëlle Lienemann, qui est députée européenne, avec Gérard Gachet, porte-parole du ministère de l'Intérieur, et Mohamed Abdi, qui est le conseiller spécial de Fadela Amara, la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. C'était Du Grain à Moudre, équipe de production Nathalie Lempereur, Mathieu Sarda, Francesca Fossati. Mais c'est la suite du 18-20 et on va en avoir immédiatement le programme avec vous, Laurent Goumard, qui sont vous.